Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. C'est votre 18-20, dernière semaine du mois de juillet. Dans une poignée de secondes, le journal à la une ce soir, le projet de loi sur le pass sanitaire et la suppression du licenciement prévu pour les salariés qui refusent la vaccination. Dans 20 minutes, on va parler du rapport du GIEC qui sera rendu le 9 août prochain. Près de 200 pays examinent depuis ce matin ce nouveau rapport, agir vite contre le réchauffement climatique. On en parlera avec mon invité, le climatologue Jean Jouzel. 18h30, le débat des grandes voix. On va revenir longuement sur le sprint parlementaire du pass sanitaire. Les modifications surtout apportées. Vous réagissez bien sûr au 39-21. Je vous attends. Et puis à 19h15, votre club des idées. On a beaucoup parlé la semaine dernière de l'affaire Pegasus. On va s'intéresser aux cyberattaques du quotidien qui touchent nos hôpitaux, nos entreprises. Comment s'en prémunir? 39-21, vous êtes concerné, vous êtes chef d'entreprise. Vous prenez bien sûr la parole. Mais avant cela, toute l'info de ce lundi 26 juillet avec le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
Après d'âpres discussions ce week-end, le licenciement pour les salariés qui refuseront l'obligation de vaccination du fait de leur profession a été rejeté. La mesure a été remplacée dans le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire par une suspension de salaire, ce qui laisse un vide administratif.
5 ans après l'attaque terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, un hommage a été rendu ce matin au père Jacques Hamel égorgé dans son église. Une cérémonie alors qu'un procès se tiendra dans quelques mois devant la cour d'assises spéciale de Paris.
La crise politique en Tunisie, situation très tendue aujourd'hui à Tunis au lendemain du limogeage du Premier ministre et de la suspension des activités du Parlement par le Président. Décryptage dans ce journal.
Et de 5 pour la France à Tokyo, 2 nouvelles médailles pour les Bleus, du bronze et de l'argent en escrime et en judo.
À la Bourse de Paris, le CAC 40 démarre la semaine sur une légère note positive, plus 0,15% à 6578 points.
La tendance météo, bonsoir Merlène Duré.
Bonsoir Thierry. Estivale près de la Méditerranée, de la vallée du Rhône et de l'Occitanie, plus mitigée sur le reste du pays. Avec encore des averses et beaucoup de nuages sur une moitié nord-ouest où il fera un petit peu frais pour la saison.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et l'obligation de vaccination des soignants est à présent entre les mains du Conseil constitutionnel. Les sages saisis par Jean Castex et par la gauche rendront leur décision le 5 août.
Oui, ils ont la tâche de vérifier la légalité des dispositions votées définitivement hier soir par le Parlement. Dans ce texte figure un nouveau point. Les personnels pour qui la vaccination devient obligatoire, comme les soignants, ne pourront pas être licenciés s'ils refusent de se faire vacciner. Mais Emmanuel Dutheil, ce compromis âprement négocié est loin de réjouir tout le monde.
Alors, sur le papier, le gouvernement a reculé. Il a accepté d'enlever la possibilité de licencier un salarié concerné par la vaccination obligatoire. Cette vaccination concerne les personnels des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD et des maisons de retraite, des sapeurs-pompiers, de certains militaires, ainsi que les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. À la place, l'employeur pourra mettre le salarié sur un autre poste sans contact avec du public, ou si ce n'est pas possible, suspendre le contrat de travail et donc la rémunération du collaborateur. Mais voilà, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, estime que ce projet de loi est un recul au final pour les salariés par rapport à ce qui était prévu. La ministre du Travail met en avant que les salariés pourraient être privés de rémunération pendant une durée indéfinie. Et surtout, le licenciement n'est pas rendu impossible par cette suspension, souligne l'entourage de la ministre. La CPME, côté patronal cette fois, dénonce aussi ce compromis. Ça va créer, selon eux, un no man's land. En revanche, du côté de EFO, on estime que ce recul, c'est bien la moindre des choses. La menace de sanctions n'est dans tous les cas pas la meilleure façon de faire, estime le syndicat.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Du côté de la vaccination, la barre des 40 millions de primo-vaccinés a été franchie.
Oui, ce qui représente 60% de la population. L'Occitanie a accéléré de façon extrêmement impressionnante le rythme de ses vaccinations. Ce week-end, 22 000 personnes ont reçu une injection en 2 jours à Toulouse, soit environ 1 000 personnes par heure.
Et pour en parler, nous sommes avec Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, près de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Week-end de vaccination record, notamment à Toulouse, avec 22 000 injections. Comment vous expliquez ce regain ?
Écoutez, d'abord, je crois que tout le monde a compris que le variant était là, que les contaminations, malheureusement, se reproduisaient. C'est un peu un jour sans fin, finalement, ce qui se passe avec ce variant Delta, et que la seule façon de se protéger durablement, c'était d'être vacciné. Et je crois que tout le monde a envie d'être prêt pour que la rentrée prochaine se passe dans les meilleures conditions et ne pas avoir affaire à un hypothétique reconfinement.
Alors, il y a visiblement beaucoup d'adolescents et de jeunes qui viennent. Les 12-18 ans ne sont plus soumis à l'obligation du pass sanitaire depuis le vote des sénateurs. Est-ce que cela va, selon vous, faire baisser leur fréquentation ?
Non, moi je pense que la réalité c'est que la vaccination des 12-17 elle était extrêmement compliquée parce que ce sont les derniers qui sont rentrés dans la danse et que c'était légitime de le repousser à la rentrée prochaine et d'ailleurs même logistiquement puisqu'on pourra, je l'espère, vacciner dans les collèges et les lycées. Mais encore une fois, je pense, vous avez raison de le signaler, finalement il y a une grande poussée aussi de cette vaccination parmi les plus jeunes et il faut s'en féliciter. Je crois que le premier soir de l'annonce d'Emmanuel Macron, 65% avaient moins de 30 ans et que dès qu'on aura atteint, j'espère, un chiffre raisonnable de vaccinés, on va avoir un passeport sanitaire efficace, y compris chez les jeunes qui vont en boîte de nuit en intérieur, parce qu'on sait malheureusement que c'est un lieu de contamination.
Benjamin Davido, 40 millions de Français vaccinés, dont 33 millions avec les deux doses, 50 millions fin août, c'est l'objectif réalisable pour vous ?
Oui, je pense que c'est complètement réalisable au rythme à laquelle on va. Il faut simplement pouvoir finalement rester dans ce côté attractif de la vaccination. D'abord parce qu'elle est efficace et d'abord ça doit motiver les Français et y compris les plus jeunes parce qu'on sait maintenant qu'un virus très contagieux qui fait plus de 20 000 cas par jour, il y a un risque y compris chez les plus jeunes de faire un Covid long et on estime que c'est 5 à 10% des patients. C'est une étude anglaise qui a montré ça de façon récente. Ça reste également un problème de santé publique pour les jeunes et que encore une fois avec l'ouverture des restaurants conditionnés et finalement de tout ce qui fait qu'on a envie de reprendre la vie d'avant, je pense qu'on va garder cette dynamique et je le souhaite le plus tôt possible qu'on se débarrasse de ce virus.
L'infectiologue Benjamin Davido de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, merci à vous.
Je t'en prie.
Et alors que nous traversons la quatrième vague, les universités préparent la rentrée. Beaucoup d'incertitudes après une année difficile pour les étudiants. Et à ce stade, Virginie Riva, les facultés se préparent encore au scénario d'une rentrée en présentiel, mais sous certaines conditions.
Oui, le mot d'ordre à ce stade, c'est 100% présentiel en septembre. La ministre de l'Enseignement supérieur, comme les présidentes d'université, veulent un retour de tous les étudiants sur les campus. Mais Frédéric Vidal tient à mettre en garde, les étudiants doivent impérativement se faire vacciner.
Si à la rentrée, le fait qu'ils soient vaccinés nous permettra de maintenir du 100% présentiel dans les établissements. S'ils ne sont pas suffisamment vaccinés, à ce moment-là, on prendra les mesures nécessaires. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelles sont ces mesures. Ce n'est pas une menace, c'est juste la réalité.
Selon les études de Santé publique France, 71% des étudiants âgés de 18 à 24 ans ont commencé leur processus vaccinal ou font part de leur intention de se faire vacciner. Il faudrait que ça soit du 100%, ajoute la ministre, et surtout que cette vaccination soit finalisée avant la reprise pour qu'il n'y ait pas de contamination à grande échelle. Des barnums seront néanmoins installés un peu partout à la rentrée pour permettre aux étudiants de terminer leur vaccination.
Virginie Riva.
Emmanuel Macron poursuit son déplacement en Polynésie.
Le président était au Marquis, ce matin, le premier chef d'État français à s'y rendre. Il a annoncé son soutien à la candidature de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Emmanuel Macron qui a également salué sur Twitter la mémoire du père Jacques Hamel, assassiné, égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen il y a 5 ans.
Un hommage lui a été rendu ce matin pour honorer l'homme d'église et le citoyen engagé en présence d'élus et de fidèles, mais également du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le souvenir de Jacques Hamel est sans doute un souvenir de pardon. Il est certainement un souvenir d'un citoyen engagé que vous regrettez, un souvenir d'un frère, d'un oncle, de quelqu'un que l'on connaissait, qui nous touche. Il est pour la France le souvenir d'un homme qui a subi la barbarie et pour lequel nous devons nous battre pour que le moins d'autres hommes possible puissent connaître le même sort. Et un regret, bien sûr, de ne pas avoir su le protéger, comme la République doit protéger tous ses enfants.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur à Saint-Étienne-du-Rouvray ce matin.
Et les deux djihadistes qui ont assassiné le père Hamel ont été abattus par la police lors de l'attaque. Mais un procès aura lieu le 14 février prochain. 4 personnes seront jugées, devant la cour d'assises spéciale de Paris, Marion Dubreuil.
Oui, même s'ils ne seront que trois dans le box des accusés, Rachid Kassim, qui est soupçonné d'être l'instigateur de l'attentat depuis l'étranger, est bien sous le coup d'un mandat d'arrêt, mais il aurait été tué il y a 4 ans en zone irako-syrienne. Les 3 autres accusés seront jugés pour association de malfaiteurs terroristes. Tous étaient en lien avec les 2 terroristes dans les jours qui ont précédé l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils gravitaient dans la même djihadosphère 2.0, abonnés aux mêmes chaînes pro-djihad de l'application cryptée Telegram. Il y a Khalil, 35 ans, le cousin d'Abdelmalik Petitjean, avec lequel il projetait un départ en Syrie. Jean-Philippe Steven, 26 ans, malgré son jeune âge, on retrouve son nom dans plusieurs dossiers de terrorisme considérés comme un leader de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Il dispensait ses conseils via Telegram à Abdelmalik Petitjean. Et enfin, Yassine, 28 ans, lui aussi radicalisé sur Internet. 2 jours avant l'attentat, il passait la nuit chez Adèle Kermiche, mais il a toujours nié avoir été au courant de son projet terroriste.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Jean Castex annonce ce soir une hausse du budget du ministère de l'Intérieur de plus de 900 millions d'euros pour l'année prochaine.
Le Premier ministre qui affirme que la promesse d'Emmanuel Macron de créer près de 10 000 postes de policiers et gendarmes au cours de son quinquennat serait tenue. 885 emplois supplémentaires verront le jour l'année prochaine.
Le feu dans l'Aude sur la montagne d'Alaric est fixé. 850 hectares ont été ravagés.
300 pompiers maintiennent toutefois un important dispositif de surveillance pour éviter que cet incendie, le plus important depuis le début de l'été, ne reparte.
Gros plan à présent sur la crise politique en Tunisie.
Le président a limogé hier soir le premier ministre Hichem Mechichi. Il a gelé les activités du Parlement après une journée de manifestation. Jean-Jacques Herry, Kaïs Saïed a finalement décidé de reprendre la main sur la vie politique du pays.
Oui, et dernière preuve de cela, on vient d'apprendre dans l'après-midi que le président Kaïs Saïed avait limogé le ministre de la Défense. Au cours de la journée, la tension est montée encore d'un cran avec des affrontements très tôt ce matin devant le Parlement. D'un côté, les partisans du président Saïed qui salue les décisions prises et de l'autre les soutiens du parti Ennahda, le principal parti parlementaire, qui eux dénoncent un coup d'État. Les deux camps se sont affrontés à coups de jets de pierre et de bouteilles. En fait, ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est l'aboutissement d'un bras de fer entre le président Saïed et Rached Ranouchi, le chef du parti Ennahda, qui est aussi président de l'Assemblée. Cette guerre politique, elle a tout grippé, l'organisation des pouvoirs publics comme le fonctionnement des institutions. Résultat, une paralysie insupportable pour les Tunisiens dans un contexte sanitaire très inquiétant. Depuis le début du mois de juillet, le nombre de malades du Covid ne cesse d'augmenter. On est en plein pic épidémique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 18 000 morts pour 12 millions d'habitants. C'est tout simplement l'un des pires taux de mortalité officiels au monde. Bref, le Covid a donc servi de catalyseur à la crise politique et sociale qui couvait. Et tout cela vient mettre encore un peu plus à l'épreuve une jeune démocratie tunisienne déjà bien fragile.
Jean-Jacques Herry.
On s'intéresse à présent aux Jeux Olympiques de Tokyo où la France a désormais 5 médailles au compteur.
Oui, 2 récompenses de plus pour les Bleus en escrime et en judo, Simon Rubin.
Exactement, et commençons par la première médaille de la journée en judo avec Sarah Léonie Sizik. Elle a 23 ans. Ce sont ses premiers Jeux Olympiques et donc une médaille d'argent pour elle. Alors, médaille obtenue à l'issue d'une finale frustrante car la Française a été disqualifiée au bout d'un peu plus d'une minute de combat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a fait un geste dangereux, mais dangereux pas pour l'adversaire, dangereux pour elle-même. En attaquant sa rivale, en fait, elle a plongé, sa tête s'est retrouvée contre le tatami. Très dangereux pour la nuque, très dangereux pour les cervicales et elle a été sanctionnée par les juges. C'est dans le règlement, elle n'a pas pu continuer son combat. La Française a donc savouré une médaille d'argent qu'elle aurait aimé un peu plus dorée.
Je viens pas chercher la médaille d'or, mais toute médaille est à prendre et est belle. Toutes les médailles sont belles, donc oui, c'est sûr que après je serai contente, je le sais. Mais là, chaud comme ça, j'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge.
Et puis elle aura 26 ans à Paris 2024, donc là le rendez-vous, il est pris pour les prochains Jeux. Autre médaille en bronze pour l'escrimeuse Manon Brunet, médaille de bronze pour la 4e mondiale qui a réalisé un magnifique tournoi. C'est donc un succès qui offre à la France sa 5e médaille, la France 10e au tableau des médailles ce soir.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Allez, on termine avec le festival In d'Avignon qui s'est achevé hier soir. Le off, lui, continue jusqu'au 31 juillet.
Oui, c'était une édition marquée par des restrictions sanitaires qui, malgré tout, attiraient beaucoup de monde. Et son directeur, Olivier Piss, a lui-même une édition héroïque, Angèle Châtelier.
Héroïque, oui, car compliqué à mettre en œuvre à cause des contraintes sanitaires. Par exemple, jusque-là, la pièce maîtresse de cette 75e édition, La Cerisée de Thiago Rodriguez, était la seule à être sous contrôle d'un pass sanitaire, car elle se jouait devant 2000 personnes. Mais depuis le 21 juillet, il a fallu adapter ça à toutes les pièces, le pass sanitaire étant désormais obligatoire pour tous les lieux recevant plus de 50 spectateurs. Pour autant, Olivier Py est fier d'avoir réussi à faire revivre Avignon.
C'était extrêmement émouvant. Comme vous le savez, le festival s'ouvre avec les célèbres trompettes. Dès qu'elles ont résonné, le premier soir, le public a unanimement applaudi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on applaudissait le festival, la renaissance du festival et peut-être, au-delà du festival, l'espoir de retourner très vite à une vie normale.
Plus de 100 000 spectateurs ont acheté un billet cette année, presque autant qu'en 2019, sans compter les 20 000 entrées gratuites. Le festival off, lui, celui des théâtres privés, continue jusqu'au 31 juillet, non sans contrainte également. Dès le départ, déjà, moins de spectacles que d'habitude étaient programmés. Un peu plus de 1000, et selon les premiers chiffres de fréquentation, il a perdu 50% de ses spectateurs par rapport à 2019.
Angèle Châtelier.
Merci beaucoup Sophie Tusson, on vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo à présent avec vous Marlène Duré. Alors du soleil vers la Méditerranée, ailleurs c'est pas gagné.
Oui, du soleil en Méditerranée, sur la partie est de l'Occitanie, en vallée du Rhône. Un soleil peut-être un peu plus contesté en Corse qui va avoir passé quelques nuages. Mais bon, voilà, toute la journée on est pratiquement tranquille. Belle matinée sur les Pyrénées. Malheureusement le ciel va devenir nuageux au fil de la journée, un petit peu comme aujourd'hui. Avec une averse sur le relief, averse qu'on va retrouver aussi d'ailleurs sur le relief des Alpes. En particulier dans le sud, il va pleuvoir jusque dans l'arrière-pays niçois. Un temps qui va contraster en fait avec le cordon nuageux assez compact et pluvieux qu'on va retrouver des Hauts-de-France et de la Champagne-Ardenne au Pays de la Loire et aux Charentes en passant par l'ouest de la Bourgogne, une partie de la région centre, l'Île-de-France, la Normandie, une partie de la Bretagne. Dans toutes ces régions, c'est bien couvert demain matin avec des averses. Quelques éclaircies vont percer en cours d'après-midi, pas grand-chose, mais toujours des averses et c'est important. Je regardais un communiqué de Météo France qui nous disait qu'on vivait le sixième mois de juillet le plus pluvieux depuis 1959. Donc vous voyez, voilà. Et puis sur le reste, entre les deux zones, si vous voulez, entre la Méditerranée et puis ce cordon nuageux, c'est une alternance de nuages et d'éclaircies. Du côté des températures, ça baisse au nord-ouest. Ailleurs, ça ne bouge pas vraiment. On attend un minimum de 19 à Boulogne-sur-Mer, 22 à Rennes, à l'Île-Dieu, à Tours. Il fera 23 dans l'Allier, 23 à Paris aussi. On perd un petit degré par rapport à hier. Nous aurons 28 à Lyon et Toulouse, 29 à Grenoble, 31 à Valence, Avignon, 33 degrés. C'est la maximale.
Merci Marlène, à tout à l'heure.
Europe 1, Thierry Dagiral.